zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans les ondes buissonnières. La radio vous propose aujourd'hui le premier épisode d'une nouvelle série, Aérophone. Une série documentaire radiophonique de Marc Monaco et Sébastien Demeff. En l'espace de 30 ans, la base militaire de Biercé est devenue Liège Airport. Un aéroport de marchandises ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les deux auteurs de cette série vont arpenter le terrain afin de capter les désirs, les grincements et les tumultes de cet endroit. Bonne écoute.
L'aérophone. Un documentaire radiophonique de Marc Monaco et Sébastien Demeff. Premier épisode, Airport City.
Quality 4396 Liège identified, turn right heading 290, vectoring first approach runway 04 right, information Juliet valid, descent to 4000 feet, management of Facebook.
Voilà, alors pour commencer l'histoire de l'aéroport, il faut un peu remonter. Quand j'ai été secrétaire du ministre André Coles à la région Wallonne, et c'est lui, franchement, qui a eu cette idée de développement de l'aéroport. Et ça a vraiment été un objectif des différents partis politiques à l'époque, parce qu'on vivait la fin de la sidérurgie, énormément de pertes d'emplois. Et dans cette aide, de grands patrons de l'époque au niveau politique, il fallait absolument trouver une reconversion pour la région liégeoise, créateur d'emplois.
Centre, vous devez inscrire Forum Biercé ou Forum Logistique Biercé. Section, vous mettez M comme Marcel, mais c'est magasinier ici. 1910. Vous êtes aujourd'hui le 10e groupe qui commence la formation de type magasinage. La vôtre est un peu particulière parce que vous avez choisi, on va dire, la dimension purement aérienne. Hein, c'est juste. Hein. Présenté et remis aux stagiaires le 20, je pense qu'on est. Le stagiaire, c'est vous. Moussigny. Voilà, bienvenue à tous. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, je l'ai déjà dit hier à un groupe, j'ai du respect pour votre démarche, parce que voilà, vous êtes dans une situation peut-être plus difficile, où vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions, hein, de trouver du travail, et si vous êtes venu aujourd'hui, c'est que vous avez adopté une attitude positive, malgré tout.
Alors au départ, oui, c'est un aéroport militaire, avec une petite activité de petit avion.
Béatrice Camus, employée à Liège Airport pendant 25 ans.
On est fin des années 80, oui. Et je vais couper court parce que c'est des gros dossiers. Il y a deux choses qui ressortent. C'est que on doit absolument essayer de développer l'aéroport de Liège avec des avions full cargo, donc c'est-à-dire remplis de marchandises, et éventuellement essayer d'avoir un petit peu de passagers avec du charter. Maintenant, on ne savait pas parquer d'avion. Il y avait un tout petit parking, puisque c'était que des petits avions qui arrivaient. Et donc, on a commencé à entreprendre des travaux gigantesques, hein, il faut le dire, parce qu'on a fait du tarmac. Et c'est à ce moment-là que tout le monde nous disait « Vous êtes fous, c'est de l'argent jeté, vous n'aurez jamais rien. » Et alors, nous, on répondait toujours un peu de patience. « Laissez-nous construire, on ne saurait pas attirer un opérateur tant qu'on ne sait pas lui montrer ce qu'on a. » Parce qu'à part les pistes, on n'avait rien. Et on a commencé un petit peu à démarcher. Donc, je me souviens, on est allé en foire. On est arrivé, on avait un stand, mais on prenait c'est un petit 9 mètres carrés. Et là, tout le monde arrivait avec des beaux bazars, hein, de belles photos, etc. Et nous, on placardait un plan avec ce qu'on faisait, ce qu'on allait faire, avec toutes les projections, etc. Donc les gens étaient un peu curieux, parce que c'est un cercle assez fermé. Tout le monde se connaît très vite, etc. On est arrivé un peu comme des perdus, puisque les autres se connaissaient déjà dans ces grandes foires. Et on a eu vraiment la chance, je crois qu'on a vraiment été porté par un personnage extraordinaire, qui était le patron des ports de New York, donc de l'aéroport et du port. Et c'est un grand, grand malabar, un grand maître, très imposant, qui fumait le gros cigare. Il est venu chez nous, c'est quoi ça, Liège? Je ne savais pas prononcer en plus Liège, en anglais, c'est pas évident. Et il nous a sentis sans doute passionnés, il trouvait que c'était un super beau projet. Et il nous a vraiment pris par la main, il nous a présenté à toutes les personnes qui pouvaient compter dans le domaine du cargo. Et sur notre première foire, on a eu une chance inouïe.
Je vais me présenter parce que bon, c'est quand même bien aussi pour vous que vous sachiez à qui vous avez affaire, hein, si j'ose dire. Voilà, pour faire simple, moi je suis maintenant, j'ai 57 ans. Donc mon prénom c'est Alain, mon nom de famille c'est Neutelers. Donc je suis né en 61.
Alain Neutelers, formateur au Forum Logistique pour les travailleurs sans emploi.
Pourquoi est-ce que je suis devenu formateur en logistique? Vous voyez ici la photo d'un vieux véhicule qui date des années 50. C'est quelque part le camion de mon grand-père. D'accord ? Donc, en 1950, mon grand-père a quelque part décidé de vendre quelques hectares de terre qu'il avait et de reprendre le commerce d'un transporteur. Et il avait acheté son tout premier camion. Je ne pense pas que c'est celui-ci, ça doit être le deuxième, celui-ci. Son tout premier camion, c'était un Dodge. C'était la version civile du Dodge de l'armée américaine, en fait, qui était mise à la sauce civile. Et mon grand-père a commencé à faire du commerce, si j'ose dire, donc du transport entre Liège et Bruxelles. Un jour, il allait à Liège, le lendemain, il allait à Bruxelles. L'entreprise a grandi jusqu'au début des années 90, 91, 92. On est monté à grosso modo 33 chauffeurs, des magasiniers de jour, des magasiniers de nuit, du personnel administratif dans les bureaux. On était à 48 personnes. Voilà, donc c'était quand même une belle PME. Mais nous avons commencé à avoir des difficultés financières vers les années 94-95. Pourquoi ? Parce que nous devions quelque part ajuster nos prix à la concurrence. Et la concurrence, c'était quoi ? C'était les grands groupes étrangers qui étaient venus se greffer un petit peu sur le territoire belge. Et je me suis retrouvé début des années 2000 avec une entreprise qui avait perdu beaucoup d'argent en 4-5 ans. Et j'ai dû faire un choix. Et à ce moment-là, avec mon frère le plus jeune, on a décidé d'arrêter l'entreprise. Donc c'est une entreprise qui a duré juste 50 ans, de 1950 jusque 2000.
Time to the pause. Un quart d'heure. On a bien travaillé.
On va parler des avions dans l'aéroport ?
Un tout petit peu.
mais j'en connais beaucoup moins, donc j'en parlerai un peu moins.
Parce que moi,
mais
par... connais pas mal.
Oui, ah, mais tu pourras peut-être nous aider un petit peu, alors.
Je suis un peu passionné. Mais...
oui, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Non, pas du tout.
Et donc, tout au début que j'étais là, moi, j'ai essayé de trouver des contrats avec des compagnies qui faisaient ce qu'on appelle des touch and go. Donc, les pilotes doivent être certifiés, doivent faire des heures de vol, atterrir, décoller, etc. Et en général, ben, ils cherchent évidemment des aéroports qui ne sont pas trop encombrés, parce que sinon, ils gênent évidemment le trafic. Ben, nous, on n'avait personne à part les militaires. Et quand je suis arrivée, pendant encore quelques années, heureusement, parce que moi, ma crainte, c'était qu'il n'y ait plus de bruit. Et que les gens oublient que c'était un aéroport. Parce qu'ici, c'était très, très bruyant, donc ça nous arrangeait bien. Comme ça mettait un petit peu de l'ambiance dans le ciel aussi. Et on avait d'excellents contacts avec les militaires, évidemment, à ce moment-là. Ils sont complètement partis, on n'a plus été réservotant. Et donc maintenant, l'aéroport est complètement civil. Et puis, entre-temps, ben, notre premier client, on l'a ferré, si je veux dire comme ça, puisque notre premier client qui est arrivé sur l'aéroport, c'est CAL, Cargo Airlines, qui est une compagnie israélienne qui faisait donc du full cargo. C'est vraiment les premiers qui ont signé avec nous. Je pense que les politiques avaient vu clair à l'époque, c'est que, bon, voilà, au niveau de notre localisation, Liège, ben, on disait, c'est le centre de l'Europe, enfin, tout le monde le dit, mais bon, voilà, nous, on pouvait le montrer qu'en termes de nœuds autoroutiers, ben, on était les meilleurs. On était les meilleurs. On voyait grand, hein. On voyait grand. Je crois qu'on a bien fait, parce que la réussite de l'aéroport aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Et puis, bon, voilà, quand vous avez une compagnie, une deuxième, une troisième, ben, c'est plus facile. Plus facile, parce qu'on commence à nous connaître, on est sur la carte. Cologne était tout près. Et à Cologne, il y avait UPS et TNT. Et en fait, c'est un peu un concours de circonstances, mais qui nous arrangeait bien, c'est que Cologne, deux intégrateurs, c'était beaucoup. Parce qu'ils ont les mêmes fenêtres de vol. Et donc, quand on a approché UPS et TNT, ben, ils sentaient bien qu'il y en avait un trop. Et donc, bon, voilà, ils ont dit, oui, il faudra peut-être un jour qu'un des deux s'en aille. Et puis, pour finir, ben, TNT étant plus petit, ben, Cologne, il a mis les petits plats dans les grands à UPS pour que UPS reste à Cologne. Et c'est comme ça que TNT est venu chez nous. Il n'est pas venu comme ça chez nous du jour au lendemain. Ils ont évidemment fait une étude de savoir quelle serait la meilleure implantation après Cologne, puisqu'ils étaient là. On a vraiment travaillé politiquement avec les syndicats. On a eu des réunions. Il y a juste qu'une paix sociale qui a été signée, hein, pour être sûr que... parce que c'était ça qui craignait le plus. Parce que comme c'était la fin de la sidérurgie, on avait eu beaucoup de grèves. Et donc, ils avaient très peur des syndicats. Il fallait oser aussi pour TNT, parce qu'il fait rien. Donc, il fallait être sûr que, ben voilà, on soit capable.
Alors, vos cartes de pointage sont ici. Je vous ai mis de la couleur pour que vous puissiez les retrouver facilement. Le groupe magasinier aéro 1910, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1910, vous devez leur prendre surtout les documents que vous me rendrez. Alors, pour pointer, il suffit d'introduire la carte sans appuyer. On a pointé. En rouge, vous êtes en retard.
Un petit peu d'histoire. La logistique, elle est née principalement de la pensée militaire. Elle a toujours existé, quelque part, mais parce que parfois, on en faisait sans le savoir, simplement. Vous y parlez tantôt de mon grand-père, le mot logistique, il n'a jamais utilisé, d'accord ? Il en faisait sans le savoir. Mais vraiment, la base, le cœur du terme logistique, ce sont les militaires qui, quelque part, l'ont inventé. C'est l'art de combiner le transport, le ravitaillement et le logement des troupes. Ici, au début du cours, si on devait faire une définition de la logistique, je dirais simplement, la logistique, c'est apporter à quelqu'un, quel qu'il soit, un élément dont il a besoin au moment où il en a besoin. C'est ça, finalement. Ce qui est vrai pour un citoyen comme nous est encore beaucoup plus important pour un militaire. Nous, on était en mode de vie ici. Eux, souvent, ils étaient en mode survie. Hein, donc, un militaire avec des chaussures abîmées, avec un pantalon troué, qui a faim ou qui a froid, il ne va pas très loin. Hein, même si c'est un guerrier mentalement, il ne va pas très loin. Hein, donc, les stratèges l'avaient bien compris. Ça. Raison pour laquelle ils ont, quelque part, développé très fort cette notion-là, cette notion logistique. Ça vient de là. Alors, un mot un petit peu spécial, juste pour votre information. Influence du taylorisme bien présente dans les entreprises. Le taylorisme, c'est quoi? Ça, c'est un peu plus difficile, hein, je vous l'avoue aussi. Alors, taylorisme, on pourrait dire que c'est un mode de pensée. On va appeler ça simplement organisation scientifique du travail. C'est un des premiers, Taylor, qui a pris un chronomètre dans les mains et qui a dit, tiens, lui, quand il met des pare-brises, combien de temps est-ce qu'il met pour le faire? Quand lui, il met les rétroviseurs, combien de temps? Lui, quand il fait la garniture des sièges, combien de temps est-ce qu'il met? Mais ça rejoint l'idée, pourquoi est-ce qu'on vous parle de lui? Ça rejoint l'idée de production productiviste ici, importante de l'offre, marché, on sent que ça pousse, d'accord? Allez, on y va. Ça va? Il y a un peu cette idée-là derrière. 1970 à 1980, augmentation de la diversité de l'offre. Apparition de nouveaux concepts industriels, Total Quality Management et JAT, Just at Time. Deux éléments importants pour la logistique. Total Quality, on entend le mot qualité qui est caché là-derrière. Et le deuxième élément, c'est ce que j'appelle souvent moi le dieu Chronos, le dieu du temps. On va le servir au moment où il en a besoin.
Fin de journée. Par exemple, le formateur vous dit, il est 14h30, vous pouvez repartir. La pointeuse sera sur le 3. Vous devez appuyer sur 4, pointer, et vous allez voir qu'elle va revenir sur 1 automatiquement, sur sa colonne initiale. Vous avez des questions sur la pointeuse?
Non.
Voilà, ben si c'est bon, on va remonter dans le local.
J'ai toujours dit, c'est vrai que c'est le cargo, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas avoir un petit peu du reste. Un aéroport, il faut un peu de tout. Et moi, j'ai vraiment défendu la construction du nouveau terminal, parce qu'on avait le vieux petit terminal qui plaisait à tout le monde, hein, parce que bon, voilà, c'était pratique. On se parquait, on faisait 20 mètres, on était dans le terminal, on faisait 20 mètres, on était dans l'avion, parce que c'était tellement petit. Moi, j'ai vraiment défendu parce que tout le monde disait « Oui, mais on fait du cargo, on fait du cargo. » Et je dis « Oui, d'accord, mais on a aussi un rôle social parce que les gens qui habitent ici tout près, ils ont peut-être des nuisances, mais ils ont aussi envie de partir en vacances près de chez eux. Et en termes, le cargo, c'est quand on parlait aux gens, etc., ils s'en fichent royalement, alors qu'ils ne savent pas que pour le travail, c'est tellement important, pour les jobs à venir, etc., encore pendant des dizaines d'années chez nous. » Ce qui fait rêver, c'est le passager, c'est les vacances, c'est les belles destinations. Et ça, je voulais garder pour, en termes de relations publiques, en termes de sociabilité, je voulais dire comme ça, cet atout du passager qui était pour moi vraiment très très important pour la région. Je vous ai dit, on était des passionnés parce qu'on n'était pas nombreux, on s'est vraiment pris de passion pour ce développement de l'aéroport. On y a travaillé des jours et des nuits sans compter. Parce qu'on avait vraiment envie de le faire. Et quand un premier avion a atterri, on était tous là. On était tous revenus tard le soir pour voir cet avion atterrir. C'est un oiseau, c'est magnifique, c'est beau. Et j'ai toujours dit, la réalité a dépassé nos rêves. Jamais, jamais, on aurait imaginé, même si on espérait bien réussir. Mais on a réussi, mais on a fait mieux que réussir.
Ici, c'est un des plus gros avions qu'on ait, c'est le 747. Un 747 comme ça peut embarquer 150, 160 000 litres, quoi. Le maximum, s'il va à une destination très longue. S'il va genre sur le Mexique ou sur... des fois, il traverse encore tous les États-Unis pour aller sur le dessus. Bah, ils peuvent embarquer, ça part avec 140, 150 000 litres, quoi.
Claude, avitailleur à Liège Airport.
Donc, il a son parking qui est prévu. Il va passer d'une piste à l'autre. Il est informé par la tour du circuit qu'il doit suivre. Et il va aller chercher son parking en zone nord. Il faut savoir qu'un avion, la plus grosse consommation, c'est au décollage. À l'atterrissage aussi, mais moindre, c'est surtout au décollage, parce qu'évidemment, il doit pousser au maximum ses réacteurs. Et ils sont forcément très lourds. Hein. Ce sont des avions comme ça, 747 pleine charge, donc poids de l'avion, poids du fuel et chargement à bord, ça peut aller jusqu'à 400 tonnes. Donc voilà, c'est 10 fois le poids d'un semi-remorque sur la rue. Ben, on imagine bien que quand il pousse pour décoller, forcément, la consommation est énorme, quoi. En fait, une fois qu'il est en l'air, c'est là qu'il a sa plus petite consommation. Il se laisse, entre guillemets, un peu porter par les vents, etc. Un avion, quand il atterrit, il ne peut pas être trop lourd. S'il est trop lourd, je vais dire, un avion qui décolle, qui a un problème, qui doit faire demi-tour et revenir, ne peut pas atterrir avec une charge trop importante en fuel. Il détruirait ses ailes à l'atterrissage. Donc il doit faire ce qu'on appelle, à ce moment-là, il doit dropper. Dropper, c'est-à-dire qu'il y a deux zones en Belgique qui sont prévues, une dans les Ardennes et une du côté de la mer. Il pulvérise en fait une quantité de fuel en l'air, parce qu'il doit faire un poids maximum pour réatterrir, sinon il se détruit sous son propre poids, quoi.
Moi je suis avitailleur ici à l'aéroport de Liège depuis 13 ans. L'avitaillement, c'est la fonction de remplir en kérosène les avions. Maintenant on ne fait pas que ça. On s'occupe aussi de gérer le parc pétrolier où nous sommes ici. Principe de base, donc il y a des gens sur le terrain qui font le plein des avions, toujours un dispatcher qui gère le tout et une personne au bureau ou le dispatcher qui s'occupe en même temps de la partie technique du remplissage du fuel, quoi.
Voilà, tout le monde est là. Bien, bienvenue à Airport City. Nous voilà en approche de l'aéroport. Vous avez vu la tour de contrôle qui est apparue à un moment donné au détour d'un tournant. On ne s'attendait pas vraiment à la voir surgir comme ça aussi rapidement. Elle est là, donc nous sommes ici sur le site de l'aéroport. Enfin, nous y serons bientôt puisque l'aéroport va donc franchir l'autoroute pour venir développer de l'immobilier ici.
François Schreuer, association Urbagora, conseiller communal.
Au total, quand on cumule tout, c'est difficile de savoir exactement combien on a investi dans l'aéroport, mais sans doute de l'ordre d'un milliard d'euros d'argent public ont été investis dans cet aéroport, qui est considéré comme étant vraiment la locomotive du développement économique régional, après que l'industrie traditionnelle, comme on l'a vu, ne joue plus ce rôle. Et donc, l'aéroport apparaît un peu comme une vache sacrée, ce qui autorise beaucoup de choses, qui autorise notamment l'urbanisation de terres agricoles, y compris pour des motifs qui n'ont rien à voir avec l'activité aéroportuaire en elle-même. On est ici simplement sur un parc de bureaux très très important. Donc on est de loin sur le plus important projet de bureaux présent en Wallonie aujourd'hui, tout projet confondu. Localiser du bureau au bord d'une autoroute, c'est un peu suicidaire en fait. Il n'y a aucune raison de mettre du bureau en bord d'autoroute. C'est accroître notre dépendance à la voiture de façon évidente. Je crois que 100 000 m² de bureaux, ça fabrique une ville. Le discours qu'on nous tient est bien un discours sur la ville. C'est pas par hasard qu'on parle de Airport City, qu'on parle de Flexport City. Il y a un discours sur la production urbaine qui est présent ici, mais cette ville qu'on nous fabrique est une ville invivable. Ici, regardez un peu toutes les voiries qu'on consomme. Et il y a un coût collectif lié à ces voiries. Ces voiries, il y a bien quelqu'un qui va devoir les payer, les entretenir, enfin qui a dû les réaliser, etc. Le milliard d'euros d'investissement de l'aéroport, il y a quelqu'un qui l'a payé, c'est nous. Une entreprise de bâtiment qui arrive ici, elle n'a à se préoccuper de rien. les camions arrivent facilement, la terre n'est pas polluée, les engins de chantier circulent comme ils veulent, on peut stocker des containers et tout ce qu'on veut sur le côté du chantier, c'est facile comme tout. Et donc ça coûte pas cher de construire de l'immobilier ici. Là où quand vous devez faire un projet qui est un peu plus de la dentelle dans un espace urbain, ben, tout de suite ça coûte plus cher aussi. Et donc je pense que le rôle du pouvoir public est aussi de faire en sorte de poser des conditions qui favorisent les projets urbains. Ça peut prendre beaucoup de formes, mais une des formes, c'est de planifier. C'est de planifier le développement du territoire en disant d'abord on construit là. Vous voulez faire du bureau ? Ok, vous allez d'abord le faire là. Et puis une fois que ce sera fait, on reparlera de telle ou telle zone. Voilà, donc on fait le tour maintenant, on longe TNT. On est dans un jour calme aujourd'hui puisque c'est samedi. Donc il n'y a pas beaucoup d'activité, tant mieux parce qu'il y a beaucoup de camions qui circulent en temps habituel. Donc soyez vraiment prudents avec les camions. N'oubliez pas que les camions ont un angle mort. Donc quand un camion tourne, il ne vous voit pas si vous êtes sur le côté. Donc soyez vraiment prudents avec ça, gardez vos distances avec les camions. Et on se retrouve en bout de piste pour parler des bâtiments fantômes.
D'un jour à l'autre, alors que vous aviez des nuits complètement calmes, on est passé de 0 à plus de 45 vols la nuit sur un seul axe. Donc c'est en fait la plus grosse catastrophe aéroportuaire liée au bruit de toute l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Ulrich Winkler, comité des riverains.
Les nuits, on ne savait plus dormir. De 3h à 7h du matin, c'était foutu. Moi, à ce moment-là, je travaillais à Charleroi, donc j'étais cadre dans une société. Et bon, quand je revenais, quand j'avais terminé mon boulot, grosso modo vers 5h, ou un peu plus tard, ben, je reprenais ma voiture, arrivé à Fernelmont, donc à la moitié du chemin entre Charleroi et ma maison, je m'arrêtais, je m'écroulais, et j'allais dormir au parking, quoi. J'avais une heure de trajet, je ne savais plus le faire. Nous, pendant ce temps-là, évidemment, on s'est organisé, on a créé des associations de riverains. Donc moi, j'ai créé la cellule médicale. On a contacté des avocats, parce que bon, on s'est rendu compte qu'il fallait faire bouger les choses, et par la justice, et par le monde politique. Mais le monde politique était complètement fermé. Tous les partis traditionnels nous considéraient comme des gens qui pensaient qu'à faire des barbecues et qui voulait détruire leur emploi. Donc on nous a complètement oubliés, rayés de la carte. On a organisé des grandes manifestations avec quand même 8000 personnes sur l'aéroport de Bierzé. Et alors progressivement, ils ont mis en place des mesures, ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement, pour soulager les riverains, parce que bon, ça rendait bien compte qu'ils avaient quand même oublié quelque chose, c'est qu'il y avait des gens qui vivaient. Personnellement, bon, moi, quand on a proposé de racheter ma maison, j'ai sauté sur l'occasion, comme beaucoup de riverains, mais j'ai vite déchanté parce que ce qu'on proposait, c'était un système, c'était une arnaque. En fait, ce n'est pas vous qui fixiez le prix, c'était la région wallonne. Et si vous n'étiez pas d'accord, eh bien, ben, vous deviez rester dans votre maison. Donc vous étiez pratiquement obligé de vendre votre maison avec perte et fracas. Ça, c'était les gens qui étaient vraiment comme nous dans la zone A, parce qu'ils ont commencé à délimiter les zones A, B, C, D. A, c'est une zone qu'ils ont considérée, sur base évidemment d'experts, comme insupportable. Puis des zones B, un peu moins insupportables. C, encore un peu moins insupportable, et au-delà de ces zones, qui étaient quand même tracées de manière, je dirais, fort linéaire, alors qu'il faut savoir que le bruit s'insinue partout. Donc, on a aussi créé des zones de bruit tout à fait folkloriques. Donc, on a créé des inégalités aussi. Hein? Grosso modo, toutes ces mesures ont pris de 98 à 2004, mais ce qui veut dire que pendant 6 ans, la population, des dizaines de milliers de personnes, n'ont pratiquement rien eu comme protection. alors que c'est extrêmement dommageable pour la santé.
Maintenant, le pack, il arrive là-bas dans la zone nord. Il y a une cabine bien précise qui réceptionne le tout. Et puis qu'il envoie ici. Et en fait, voilà. Je vais dire, l'arrivée vraiment pour nous, notre première arrivée, voilà, ça sort de là. Le pipeline, en fait, c'est le pipeline de l'OTAN. Donc, international, je vais dire. Le pipeline vient directement de Glon. Louvet, Glon, Liège-Airport. C'est un flux de kérosène qui remplit 24 heures sur 24, et voilà. C'est comme ça qu'on obtient notre stock. On débite en fait 50 mètres cubes à l'heure. Donc voilà, c'est 1200 mètres cubes maximum sur 24 heures. Ça qui n'est pas suffisant en fait à cause de la taille des tuyaux. Voilà, et le resto, comme certains jours on est au-delà de cette capacité de fioul, ben c'est ça qu'on doit pour le moment faire un apport avec des camions. Quoi.
Ici, autour de Bierzé, ce n'est pas un territoire, c'est un no man's land. C'est quelque chose qui est perturbé. C'est des maisons historiques qui ont été rasées. C'est des communautés, des gens qui vivent en communauté et qui n'existent plus. Donc, moi, un territoire, c'est justement où les gens vivent en communauté, où une activité économique fonctionne en symbiose avec la nature. Bon, moi, il y a des sangliers ici, ils ne me dérangent pas. J'habite près des bois, je sais que c'est normal de voir des sangliers. Moi, si on crée une activité économique, moi, j'estime que l'activité économique, elle ne doit pas perturber mon existence. Elle ne doit pas détruire des biotopes. Mais ici, il n'y a pas de symbiose. Ici, il y a une sorte de dictat économique qu'on nous a imposé. Et puis tout le reste... Ça part en vrille. Hein. Bon, on avait pas mal d'études médicales. Hein. On savait, par exemple, que bon, à l'aéroport de Milan, on avait fait des études sur le bruit. On constatait que les nouveaux-nés avaient des éclatements au niveau des vaisseaux sanguins quand le bruit passait. Ça correspondait à, en fait soit à quelqu'un qui courait à 100 mètres, quoi. Le cœur montait puis descendait. Bon, vous avez 40 vols la nuit, ben c'est comme si vous couriez 40 fois 100 mètres, quoi. Ce qui fait que c'était extrêmement dommageable pour les gens qui avaient des problèmes de cœur. Hein, ils dormaient, mais ils ne s'en rendaient pas compte que, bien entendu, parce que beaucoup de gens disent « Ah oui, mais je dormais ». Mais non, mais le cerveau, il enregistre le bruit. Vous avez les pulsations cardiaques qui montent, etc. Donc j'habitais dans la zone A de Bierzé, à Saint-Georges-sur-Meuse, rue Launeux, de 1998 à mai 2001. Quoi. Je suis parti un des premiers, mais je n'ai... La particularité que j'ai, c'est que moi, j'ai continué le combat tout le temps. Même si pendant des années, il y a eu des périodes où c'était fort creux, puisque on ne savait plus contacter l'ensemble des riverains, puisque toute cette population de tous ces villages s'est retrouvée un peu partout. Hein, bon, moi, je suis venu à Yvoramet, mon frère est parti à Coutouin, un autre frère est parti à Brève, ma mère est partie à Ouy, ma belle-mère était l'institutrice du village, hein, c'est elle qui a formé tous les jeunes, des médecins, des avocats, des facteurs, des conducteurs de bus, des braves gens.
Ils habitaient là depuis plusieurs générations, vraiment déjà très loin au 19e siècle. Moi, j'étais d'origine allemande, mais enfin, c'est là qu'on s'est fixé. Mon père, ayant dû fuir en 1945, Danzig, sa patrie, pour venir ici, il s'est installé ici, c'était sa nouvelle patrie. Donc, d'une certaine manière, on nous a de nouveau expatriés, chassés, quoi. On a dû migrer, quoi, contraints et forcés. Bien sûr, les gens qui n'ont pas été touchés, qui habitent à des kilomètres de là, ne peuvent pas comprendre ça. On avait des amis qu'on avait depuis des années, ils sont partis à droite et à gauche. Tout ça a été détruit. Ça cicatrise mal quand même, quoi. Hein. C'est OK, il faut continuer à vivre. Hein. Bon, il faut continuer à vivre, mais bon, on nous a privés de beaucoup de choses. Hein.
On est dans un endroit de malade, en fait, parce que on a été à la fois les initiateurs de la révolution industrielle et puis on est les nouveaux défenseurs de la nature. Enfin, le combat, il doit se faire ici. On est responsable d'une certaine manière. Tu vois.
Nils Duchesne, ingénieur civil, responsable de centrales hydroélectriques.
L'Ourthe était une voie navigable en 1800. Hein. Il y avait les bêchettes et pas mal de matériaux, de carrières et tout étaient amenés en bateau vers Liège. C'est marrant parce que cette rivière, en fait, c'est une vieille zone d'activité industrielle. Et on dit que c'est Napoléon, mais enfin, c'est plutôt les Hollandais. Enfin, à l'époque, 1815-1820, on décide de faire le canal de l'Ourthe. L'objectif du canal de l'Ourthe, c'était de relier le bassin de la Meuse au bassin du Rhin. Ça, c'était la vision de Napoléon. Il fallait relier par bateau ces deux bassins-là. Et alors, il a fait des recherches et il s'est rendu compte que si on remontait l'Ourthe jusqu'à Oufalize, puis qu'on creusait un tunnel pour changer de bassin versant, on arrivait sur le bassin versant de la Moselle, et là, on pouvait redescendre la Moselle et on arrivait dans le Rhin. Ça va ? Et donc, il a commencé les travaux en partant de Liège. Et donc, il y a un canal qui a été construit. Bon, alors ici, c'était un tronçon où il y avait le canal, là où il y a le Ravel maintenant. Et donc, ce tronçon-ci n'était plus navigué de l'Ourthe. Il était repris par le canal. Et ce canal n'a pas été fini. Hein, les Hollandais se sont essoufflés, n'ont pas réussi à le finir. Et puis à un moment, hop, à cause du charbon et à cause des usines et tout ça, on a décidé de faire des trains, quoi. Il fallait évacuer le charbon et faire venir de l'acier. Enfin, il fallait tout bouge dans tous les sens. Et on a construit le train dans la ligne de l'Ourthe, le long du canal, quoi. Alors t'as ces petits bateaux qui font 12 mètres de long dans lesquels tu mets peut-être 5 tonnes ou 10 tonnes de charge. T'as des trains avec 5 tonnes par wagon, quoi. Donc c'est fini, les bateaux se sont effondrés, la batellerie s'est effondrée. Je sais pas quand le dernier bateau est passé sur le canal, mais en tout cas, quand moi j'étais petit, ils ont remblayé le canal avec les déblais de l'autoroute. Alors voilà, pourquoi est-ce que moi j'ai débarqué ici ? Mais parce qu'on faisait de l'énergie verte. Et moi je voulais faire de l'énergie verte. Et pourquoi est-ce que je voulais faire de l'énergie verte ? Parce que... En gros, on m'a dit tu seras ingénieur, mon fils. Donc, j'ai fait ingénieur. Et tout m'emmerdait, quoi. Enfin, j'avais pas envie de faire des avions, ni de faire des centrales nucléaires, ni de construire des ponts, etc. Et les énergies renouvelables, je me suis dit, ça peut être sympa. Et on a finalement développé un bureau d'études qui a été capable de répondre à différents appels d'offres, etc. On a suscité les appels d'offres. Et il y en a deux qu'on a remportés, un sur la Sambre et un sur l'Ourthe. Et puis... Je me suis dit que je n'ai pas l'impression d'être super actif dans ce que je fais. Et je me dis, je vais essayer de faire un peu plus de vélo, essayer de faire ceci, cela. Et j'étais à la masse critique. Et la masse critique, ça a été, entre guillemets, ma première désobéissance civile passive. Je n'avais pas l'impression d'être désobéissant, si ce n'est qu'on passe quand même au feu rouge, on emmerde un peu les gens. Et à la masse critique... J'ai rencontré des activistes et j'en ai rencontré qui se revendiquaient de Extinction Rebellion. Et ce qu'ils veulent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est prendre conscience de l'extinction en cours, quoi. Que les oiseaux meurent, que les insectes meurent, que les baleines meurent, etc. Et elles meurent plus vite que ce qu'elles ne font de petits, quoi. Que c'est parti, là. Dans les réserves naturelles allemandes, il y a 40% des insectes qui ont disparu. Dans les réserves naturelles, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pollution locale, machin, machin. Et au sein d'Extinction Rebellion, on réfléchit de manière assez générale sur des objectifs, etc., sur des cibles. C'est quoi la cible ? À Liège, qu'est-ce qu'il y a comme cible ? C'est qui décide de quoi ? Et l'aéroport devient une évidence, quoi. Et donc, c'est la cible idéale pour susciter des vocations de rebelles, quoi, d'une certaine manière.
Donc, pour résumer, urgence climatique, moins de CO2, déjouer le piège d'Aliva Bas, s'il vous plaît, et plus d'espace vert. C'est pour ça qu'on est venu. La marche va démarrer par là derrière, rue des Guimards, boulevard, et puis on va rejoindre la place de l'Isère. En musique, amusez-vous bien, c'est le principal. Crier, chanter, marcher. Et on se voit dans 6 mois pour refaire la même. Merci à tous.
Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud.
Extinction, rébellion. No fuel? No fuel. Tant nos oiseaux sont là. Un air bridge, l'Éthiopien. Éthiopien, il vient.
Non, le ami de TFA.
Un air bridge, il vient de poser.
Oui, il part à 13h55 aussi.
Avant, il y avait un Éthiopien.
Qui part à 13h55.
Mais il n'y a rien d'autre. On va aller se positionner pour arriver avant l'hydro, comme ça on verra arriver et je pourrai vous expliquer un peu le principe depuis le moment où le camion arrive à l'avion, on va dire.
Amélie, pour Benoît.
Écoute, oui, il y a le russe qui a appelé, qui prend 23,7 tonnes, il est en 112, je peux te mettre?
Ouais, vas-y, tu peux envoyer.
Donc là, voilà encore un avion en approche. Il va se poser juste au-dessus de nous. Je vais ralentir un peu. Il est dans l'axe de piste. Donc l'axe de piste est là. Vous voyez, il y a un peu de vent, on voit. Hein. On voit que l'avion, le pilote est en train de corriger en fait. Il corrige pour amener l'avion le plus stable possible. Les barrières là, c'est le seuil de piste. Donc voilà, il va poser juste au-dessus. C'est l'AMI. Sa piste.
Il paraît qu'il y a un peu de gibier ici.
Oui, ceci c'est un parc à gibier protégé. Bon, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va devenir dans le futur parce que, bon, comme l'aéroport s'agrandit, bon, pour le moment il est toujours là. Je ne sais pas si ça va rester par après ou si c'est voué à disparaître. Il y a effectivement des gibiers. Hein, quand on vient le matin, des fois faire des plaies au lever du jour ou quoi, il y a des chevreuils. Il y a quelques sangliers, il y a beaucoup de faisans, des lièvres, énormément. Oui, c'est un parc, il est complètement clôturé.
Mais il est à l'intérieur de...
Il est à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport. Voilà les barrières, ici à ma gauche, extérieure de l'aéroport, voilà. Et nous, en fait, l'avion qu'on va faire, c'est le troisième qui est là, c'est l'Éthiopien. Lui, c'est un 777. La différence en deux mots, ben... On met pratiquement le même chargement dans un 777 que dans un 747 et il est pratiquement 50% moins glouton en kérosène. Quoi.
Juin 2017, 5 mois après, renversement de gouvernement, les socialistes se font éjecter et c'est maintenant le MR qui tient les rênes et le ministre Kruk qui découvre que le jugement de Liège, pour les 500 familles, ça signifie, on a évalué avec les intérêts, hein, sur quasi 20 ans, à 5%, c'est 60 millions d'euros. Et nous pouvons réclamer 70% de la somme, si nous le souhaitons, à TNT. Donc, je pense que c'est là le nœud du problème que Kruk a dit, on va négocier avec les riverains. Et c'était uniquement pour ne pas indisposer le pollueur. J'en suis certain. Donc là, il y avait un enjeu politique. Bon, le ministre prétend qu'il veille à la bonne marche du budget, à ce que la dette ne s'amplifie pas. Mais en fait, il vient au secours du pollueur qu'est TNT en prenant à son compte l'ensemble des dommages. Donc en fait, le pollueur n'est pas puni, c'est le contribuable wallon qui est puni, puisque qui va payer ces dommages et intérêts, même s'ils sont réduits en partie, ben c'est vous et moi, c'est le contribuable wallon.
Dernière chose que je voulais mentionner ici sur l'aéroport, c'est quand même qu'on annonce une privatisation de cet aéroport, une privatisation totale, donc on est déjà dans une privatisation partielle. Et je trouve que ça pose quand même la question de savoir tous ces investissements publics qui ont été réalisés autour de l'aéroport pour développer l'outil, pour exproprier des bâtiments, pour rendre les vols de nuit possibles, pour créer des infrastructures autour de l'aéroport. On a vu par exemple le déplacement de la sortie de Flémalle qui a dû être reporté plus loin pour permettre l'allongement de la piste. On a de même chose de l'autre côté où des infrastructures ont aussi été déplacées, tous les bassins d'orage, enfin toutes ces choses-là qui ont été payées par la collectivité. À un moment donné, où est-ce que ça se retrouve? Où est-ce que ça ne se retrouve pas? On évoque un prix total, une valeur totale de la privatisation de 75 millions d'euros. On voit que rien que les insonorisations et les expropriations ont coûté 350 millions d'euros et que le total est sans doute de l'ordre à la très grosse louche du milliard d'euros. Ça pose quand même fortement question de savoir quel est le sens que la collectivité investisse aussi lourdement dans des infrastructures, si c'est pour ensuite les privatiser à vil prix, au bénéfice de qui, on ne sait pas. Alors la croyance qui est à l'appui de ça, supposons que ce ne soit pas de la corruption, mais que ce soit une réelle politique économique, c'est que en développant cet outil, on va générer un moteur économique qui va ensuite bénéficier par retour à la collectivité. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de mesurer cet effet. Est-ce qu'on a investi un milliard d'euros juste pour permettre à FedEx maintenant de naviguer à vil prix et pour permettre à une compagnie russe de venir parquer ses Antonov ici et pour permettre à des fleurs cultivées dans les colonies israéliennes en Palestine d'être exportées en Europe tranquillement? Et c'est pour ça qu'on a investi un milliard d'euros d'argent public ou bien il y a quelque chose d'autre? Voilà, on aimerait bien le savoir.
Maintenant, il y a un concept que j'avais toujours défendu, que je disais par rapport au monde politique. Je leur disais, l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. C'est vrai, vous voulez faire un aéroport. Je pense que c'est un mauvais projet, mais vous voulez le faire. L'intérêt général, c'est l'aéroport. Ça va profiter à la population. Mais ce qu'ils auraient dû faire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été condamnés, c'est avant de lancer cet aéroport de nuit, avant d'inviter et de lancer cette activité économique, ben, c'était de nous protéger, de faire une enquête et de constater que les dégâts que ça allait faire. Mais bon, quand vous dites ça, vous passez pour quelqu'un de... quelqu'un qui dérange. Je suis quelqu'un qui dérange, je suis un caillou dans la chaussure.
Quest 43-96-Liège, identified, turn right heading 290, vectoring first approach runway 04, right information, Juliet valid, descend to 4000 feet, can you turn off?
Thank you.
C'était L'Aérophone, une série documentaire de Marc Monaco et Sébastien Demeff, avec les témoignages de Béatrice Camus, Alain Neutelers, Claude, François Schreuer, Nils Duchesne et Ulrich Winkler. Musique originale, Armel Marcadet. Mixage, Sébastien Van der Borcht. Voix, Ninuccia Berté. Nous remercions Sarah Fautré, Élise Van Durm, Cyril Mosset, Émilie Rouchon, Justine Paulus, Thomas Ferrando, Aurélie Aix, Christian Delcourt, directeur de la communication à Liège Airport, Jessica Deneyer, la famille Saglam, Grégoire Daniel, Jean Loncel, Michel Leroy, Le Forum et ses stagiaires. Une production de l'atelier Grafouille, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du fonds Gulliver de la RTBF, du pôle matériel WIP Dérive et de Ressac Post-Production.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.